C'est une joie de pouvoir vous retrouver. Il y en a beaucoup que je n'ai pas vu, nous n'avons pas vu depuis quelque temps. Et de voir la grâce de Dieu qui nous préserve, qui nous défend, qui nous protège. Et de voir aussi ce temps de confinement et qui semble être derrière nous pour un temps, en tout cas, et la grâce que c'est même d'avoir la paix, de pouvoir se réunir sans crainte d'une guerre ou d'une persécution. Ce n'est pas un droit, c'est une grâce. Et nous voulons être reconnaissants au Seigneur. En Luc chapitre 18, il y a plusieurs paraboles de Jésus. Là, au début, il y en a deux. Une concernant la prière. Et puis une deuxième qui commence au verset 9. Luc 18, verset 9. C'est une histoire que Jésus a inventée. C'est pas une vraie histoire, mais une histoire que Jésus a inventée pour faire passer un message, pour communiquer une vérité. Et j'espère que vous allez pouvoir suivre avec moi cette histoire et que nous puissions trouver ensemble la vérité qui se trouve. Écoutons donc la parole de Dieu, Luc chapitre 18 et le verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et puis Jésus dit, verset 14, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Voici donc la parole de Dieu. Et notez d'abord la raison pour laquelle Jésus raconte cette histoire. Ça va nous aider à mieux la comprendre. C'est là dans le premier verset que nous avons lu, le verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qu'il écoutait ce jour-là et qui se persuadaient qu'elles étaient justes. Le Darby dit... Il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes comme s'ils étaient justes. Alors, dans cette histoire, lequel de ces deux hommes s'est persuadé qu'il était juste? C'est pas difficile à trouver en écoutant leurs prières. Lesquels des deux hommes? Le pharisien ou le publicain? Qui se persuadait d'être juste? C'était le pharisien. Mais à la fin, regardez verset 14, Jésus dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Et l'autre, c'est celui qui se persuadait d'être juste. Et Jésus dit, en fait, que cet homme n'était pas justifié. Il n'était pas juste. Il était condamné par Dieu comme étant quelqu'un d'injuste. Et ça, c'est la grande surprise de cette histoire. C'est que, à travers l'histoire, depuis le début jusqu'à la fin, on est persuadé, l'homme est persuadé, nous sommes, en écoutant, persuadés, qu'il y a un qui est juste et l'autre est injuste. Et Jésus, à la fin, il crée la surprise en disant, en fait, c'est le contraire. Celui qui croyait être juste n'est pas juste. Et l'autre qui se disait pécheur est celui qui est déclaré juste par Dieu. Et donc, la première chose que je veux noter ce matin, c'est le danger de me persuader à tort que je suis juste. C'est le centre, je crois, de cette histoire, ce danger de me persuader, mais c'est deux mots qui sont très importants, hein, à tort, de me persuader à tort que je suis juste. Toute cette histoire est construite autour de cette fausse idée qu'a l'homme de lui-même. Et nous savons tous qu'il y a une différence entre paraître et être, entre être et paraître. Par exemple, en Matthieu 23, verset 28, « Vous de même, au dehors, Jésus parle à des pharisiens, il dit, « Vous paraissez quoi ? Vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Donc là, on voit qu'il y a une différence entre paraître juste et être juste. Il y a peut-être ce matin quelques-uns qui paraissent justes aux hommes. Vous êtes là, vous êtes bien habillés, vous avez chanté, vous avez baissé la tête pendant la prière. Mais vous savez vous-même que si on pouvait voir votre cœur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Il y a même quelques-uns dans les évangiles qui, selon Luc 20, verset 20, venaient à Jésus et feignaient d'être justes. Ils savaient eux-mêmes qu'ils n'étaient pas justes, mais ils feignaient d'être justes pour essayer de tendre un piège pour à Jésus. Mais dans cette histoire, Jésus ne parle pas de ce type de personnes. Il ne parle pas de ceux qui vont feigner, prétendre d'être justes. Il ne va pas parler de ceux qui sont hypocrites. Ils savent qu'ils ne sont pas à l'intérieur, ceux qui projettent à l'extérieur. Il va parler d'un danger bien plus dangereux, bien plus grave. C'est certaines personnes qui se persuadent elles-mêmes qu'elles sont justes. La Bible français courante dit, Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu. Vous voyez la différence? C'est pas quelqu'un qui est hypocrite. Il sait qu'il n'est pas juste, mais il prétend être. C'est quelqu'un qui, dans son cœur, dans la sincérité de son âme, il se croit juste. C'est de cette personne que Jésus parle dans cette histoire. Combien de personnes, ce matin, pourraient dire, je crois être en règle avec Dieu. Alors, je sais que je ne suis pas parfait. Je suis pécheur. Je l'avoue. Mais je ne suis pas très anxieux à l'idée de rencontrer Dieu lors de ma mort. Je suis en bonne relation avec Dieu. Quand je meurs, il va m'accueillir au ciel. Alors, avez-vous envisagé le fait que vous vous êtes peut-être persuadé à tort d'être juste. Et il n'y a pas de vrai chrétien qui a peur de réexaminer les fondations de sa foi. Un vrai chrétien n'a pas peur de faire cela. En fait, il veut faire cela, il veut examiner sa foi pour voir s'il est réellement dans la foi. Est relié et lié à Jésus-Christ. Et cet examen, c'est pas comme le code de la route. Hein. Ici, il y a plusieurs qui ont passé le code de la route. Et ça, si vous avez passé, vous êtes content de l'avoir passé. Et vous êtes heureux qu'il ne faut pas le repasser, hein, encore une fois, parce que si, on pourrait rater encore. Donc c'est fait, c'est derrière nous, on ne va pas revisiter ça. J'ai passé le code de la route, c'est fini. Je passe à autre chose. Ça, c'est pas examiner soi-même. Si nous sommes dans la foi, c'est pas comme ça du tout. C'est ce que Jésus nous invite à faire ici. C'est plutôt comme si on allait chez le médecin. Et il vous demande, puis-je prendre votre tension? Alors vous lui dites pas, ah non, non, on a déjà pris ma tension il y a 20 ans et j'ai réussi. Alors on va plus refaire ça. Ça serait absurde. Et vous dites, ouais, en plus, j'ai la meilleure note de la famille, donc on va plus me retester parce que je veux garder cette note. Non, on est intéressé. On va pas se fâcher contre le médecin de reprendre peut-être une 20e fois, je sais pas, notre tension parce que nous sommes intéressés dans par rapport à notre propre santé. Et lorsqu'il s'agit donc de votre tension artérielle, vous ne cherchez pas à obtenir le meilleur score. Vous ne cherchez pas à tricher, vous voulez connaître la vérité. Vous ne vous énervez pas contre le médecin s'il vous demande de refaire encore une fois à votre prochaine visite. Et laissez-moi donc vous interroger concernant votre santé spirituelle. Est-ce que vous préférez, il y a des gens qui préfèrent se sentir bien avec Dieu que d'être en règle avec Dieu. Il y a des gens qui ont peur, en fait, de regarder la vérité en face. Est-ce que vous faites partie de ceux qui préfèrent vous persuader que vous êtes juste? Pas trop y réfléchir, parce que là, je suis persuadé, je préfère pas revenir là-dessus. Ou est-ce que vous préférez être sûr que Dieu vous a déclaré juste? Notez ce mot, verset 9, traduit persuadé. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Alors, c'est un mot qui parle de deux choses à la fois. Ça parle de l'action de persuader quelqu'un, mais ça parle aussi du résultat, du fait que quelqu'un est maintenant persuadé. Et donc, parfois, on peut le traduire « avoir confiance ». On s'est persuadé et donc on a confiance que c'est la vérité. Et on trouve ce même mot dans le dernier verset du chapitre 16. Puisque vous êtes en Luc, est-ce que vous pouvez trouver le dernier verset du chapitre 16? Et on va retrouver exactement le même mot. Abraham lui dit, et c'est frappant, hein, il parle de ces hommes qui sont toujours vivants, des Juifs qui ont la loi de Dieu, la loi de Moïse, et il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, c'est notre mot. Même si quelqu'un des morts ressuscite. Parce que l'homme qui est déjà mort, il demande, mais on voit quelqu'un qui est déjà mort. S'ils voient quelqu'un ressuscité, ils vont croire. Et Abraham lui dit, non. S'ils ne croient pas l'Ancien Testament, ils vont pas croire, même si quelqu'un des morts ressuscite, ils vont pas se laisser persuader. Et si on prend une comparaison entre ces deux textes, ce que Jésus dit des hommes est absolument affreux ici. C'est terrible, ce qu'il dit des hommes sur la nature humaine. Jésus dit que sans exception, si on refuse d'accepter ce que nous dit la Bible écrite, la parole de Dieu écrite dans nos mains, on ne se laissera pas persuader par une parole d'un ressuscité. C'est pour ça que les miracles ne vont pas changer les gens. Et puis il dit qu'il y a des gens, et on peut présumer qu'ils sont nombreux, hein, qui se persuadent eux-mêmes qu'ils sont pas justes. Alors prenez ces deux idées ensemble. Ils ne se laissent pas persuader par ce que dit Moïse et les prophètes, mais ils se persuadent eux-mêmes qu'ils sont justes. Ils s'écoutent eux-mêmes. Vous savez, le monde est rempli de telles personnes. Ils n'ont aucune confiance en ce que dit la Bible. Ah non, on ne peut pas faire confiance. Mais ils ont fait toute confiance à ce qu'ils se disent à eux-mêmes. Et ils vont aller jusqu'à la mort, se faisant confiance à eux-mêmes. C'est terrible, non? La nature humaine, on refuse de croire en Dieu, mais on se croit si facilement. Les évangiles nous parlent de plusieurs personnes qui étaient réellement justes. Par exemple, Matthieu 1, 19 nous dit que Joseph, le mari de Marie, était juste. Luc 1, verset 6, tous deux, et ça parle de Zacharie et Élisabeth, étaient justes devant Dieu. Luc 2, 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, cet homme était juste et pieux. Il y avait des hommes justes, des femmes justes. Et ce sont ceux-là qui allaient au paradis, ils étaient en route pour le paradis, pour être avec Dieu dans l'éternité. Jésus parle en Luc chapitre 14, verset 14, de la résurrection des justes. Ce sont les justes qui seront un jour ressuscités pour être pour toujours avec le Seigneur. Il y a des jeunes, il y a des hommes, il y a des femmes encore aujourd'hui qui se persuadent qu'ils sont dans ce groupe. Ils font partie des justes. Et ils se confient en eux-mêmes comme s'ils étaient justes. Et le danger pour toutes nos églises, c'est que nous avons dans nos églises des personnes exactement dans cette circonstance. Ils se persuadent eux-mêmes. Et ils n'ont même pas imaginé la possibilité qu'ils pourraient se persuader à tort. Il y a des gens qui pensent, le simple fait que je suis persuadé veut dire que je le suis. Le simple fait de croire que je suis sauvé veut dire que je suis sauvé. Et ils ne reconnaissent pas que il y a une vraie possibilité de se persuader à tort d'être juste. Voici un témoignage que j'ai lu. Je cite, « Il y a juste 2 ans que Christ est venu d'une manière miraculeuse. » Écoutez comment il exprime ça. « Et qu'il a passé sa charrue dans mon cœur, brisant et déchirant en lambeaux ma vieille vie de soi-disant chrétien. » Me montrant que j'étais rempli de mort, la mort au milieu de toute mon activité chrétienne. Donc c'est quelqu'un qui était dans l'église, pensait être en bonne relation, il dit, dans sa grâce, Christ est venu, il a tout déchiré. Et il a montré en fait que j'avais la mort au moins, la mort au milieu de toute mon activité chrétienne, et me conduisant bien qu'avec des luttes terribles et l'opposition du vieux cœur et de son orgueil dans une connaissance de lui-même, le Jésus personnel est vivant. Un beau témoignage. La grâce de Dieu qui dévoile notre péché afin qu'on puisse venir à Christ comme pécheur. Et quelqu'un pourrait me poser la question, mais pourquoi devrions-nous nous inquiéter des gens qui viennent à l'église? Pourquoi s'inquiéter d'eux? Leur présence même, le fait même que vous êtes présent ce matin, indique que vous êtes quand même mieux qu'un musulman ou mieux qu'un athée. Et la réponse à cela, c'est que si vous êtes dans l'église, sans être en Christ, ce n'est pas la même chose, dans l'église physique en tout cas. Si vous êtes ici à l'église, mais pas à Christ, votre position est à la fois pire et plus trompeuse. Votre danger est plus grand parce que, en fait, c'est moins apparent. J'ai entendu la semaine dernière d'un certain concert, il disait que ce cancer est très dangereux précisément parce qu'on peut rarement le détecter jusqu'à ce que ce soit vraiment partout dans le corps. C'est le fait qu'on ne puisse pas le détecter qui le rend si dangereux. Et ça, c'est une situation qui est dangereuse parce que on peut pas facilement la détecter. Vous êtes là, vous priez, vous chantez, vous faites partie de la communauté. Et les autres autour ne soupçonnent peut-être pas que vous n'avez pas de relation d'amour avec Jésus-Christ. Ils ne savent pas que vous avez toujours hésité d'arrêter vos regards sur l'extrême laideur de votre propre péché. Vous n'avez pas voulu porter la vue, les regards jusqu'au fond de l'abîme de votre propre cœur pour admettre et confesser votre rébellion, que vous n'avez pas placé toute votre confiance dans les mérites de Jésus-Christ seul. Quelque chose en vous qui veut toujours vous justifier. C'est, je n'en doute pas, le piège qui envoie des millions de personnes en enfer. Elles ne peuvent pas faire face à la méchanceté de leur propre iniquité. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'est pas parfait. Mais de voir la laideur, la méchanceté de notre iniquité, ça prend une œuvre de grâce dans la vie. Et beaucoup de gens vont directement de l'église à l'enfer. Ce qui est intéressant, des études qui ont été faites, peut-être votre propre expérience aussi, démontre cela, que la plupart des gens qui croient qu'il y a un paradis, croient aussi qu'ils vont y être. C'est-à-dire, si on prend le pourcentage des gens qui croient qu'il y a un ciel, et le pourcentage des gens qui croient qu'ils vont au ciel, c'est à peu près la même. Il n'y a pas des gens qui disent « Ah, il y a un ciel et moi, je n'y vais pas ». C'est très rare. C'est un ciel, c'est que j'y vais aussi. Et le devoir de se remettre en question et de s'auto-évaluer, de s'examiner soi-même, est à la fois un des plus importants et un des plus négligés exercices dans la vie chrétienne. Mais 2 Corinthiens 13 et verset 5, la Bible nous dit, c'est un commandement, « Examinez-vous-même, examinez-vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous-même. » Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? C'est comme la tension. On vous dit, oh, j'ai déjà fait ça il y a 5 ans. Non, examinez-vous-même. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en Jésus-Christ? Spurgeon, vous connaissez peut-être le prédicateur anglais, il a dit ceci. Nous ne nous étonnons pas que les hommes s'interrogent anxieusement sur leurs conditions terrestres. C'est-à-dire, est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que des choses vont bien dans ma vie terrestre? Mais nous devrions nous étonner bien plus que la plupart d'entre eux soient si indifférents, si peu soucieux des choses du royaume des cieux. Ce n'est pas notre corps, notre propriété, notre liberté qui est en question devant la justice, mais une affaire bien plus grave. Notre existence éternelle au ciel ou en enfer. Examinons de près nos sentiments les plus intimes. Cherchons à savoir quelle sorte d'homme nous sommes. Examinons rigoureusement notre cœur et voyons s'il est en accord avec Dieu ou non. Ne nous laissons pas tromper par la bonne opinion de nos semblables, mais examinons-nous nous-mêmes. C'est ce que Jésus nous appelle à faire. Une personne qui vit dans la communauté de l'Église, mais qui n'est pas dans la foi, qui n'a pas Jésus-Christ en lui. Et ça, c'est la question ce matin. Est-ce que vous avez Jésus en vous? Est-ce que vous êtes à Christ? C'est quelqu'un qui est dans une situation potentiellement trompeuse parce qu'il a une forme de piété. Et avec cette forme de piété, il se convainc lui-même et convainc les autres. Mais votre position de pratiquant, mais qui n'a pas de connaissance personnelle, intime avec Jésus, comme j'ai dit, c'est plus trompeuse, c'est plus dangereux à cause de cela. Mais vous savez, c'est aussi pire. Pire, car la Bible dit que à ceux qu'on a donné beaucoup, on va demander quoi? Beaucoup aussi. Votre éternité sera pire parce que vous avez connu tant de choses ici sur terre. Jésus a parlé des villes, des petits villages autour de lui, des très beaux petits villages avec des pêcheurs s'il fallait choisir pour élever sa famille ou partir à la retraite entre Sodome, Gomorre et ces petits villages de Galilée, je suis sûr qu'on choisirait tous ces petits villages. Et Jésus nous surprend en disant qu'au jour du jugement, ça sera mieux pour Sodome et Gomorre que pour ces villageois. Parce que eux, ils ont eu Jésus-Christ face à face. Et vous avez entendu Jésus-Christ prêcher, exalter, démontrer face à face. Votre danger est donc pire. Ça, c'est le grand danger pour ceux ou celles qui assistent à l'église, qui se considèrent chrétiens. Et non, ça, c'est toujours parmi les jeunes, ça arrive, hein. Toujours des jeunes qui se considèrent chrétiens sans y réfléchir plus. C'est un danger que Jésus-Christ lui-même a souligné ici dans notre texte. Il est très facile pour ces personnes de se persuader à tort qu'elles soient justes. Mais le problème, c'est que la paix que ça nous donne n'est pas fondée sur une relation réelle avec Jésus-Christ, mais sur cette persuasion, les choses qu'on se dit à nous-mêmes. Il y a un monde de différence, il y a une éternité de différence entre une justification de soi et une justification divine. Ça, c'est la question. On sait tous se justifier, hein, depuis bas âge. On sait tous dire, c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est l'autre. Dès qu'on est attaqué, on se justifie. Mais là, c'est pas ceux qui se justifient qui vont au ciel. C'est ce que Dieu justifie. C'est que Dieu déclare juste. Tout le monde se déclare juste. Mais Dieu ne déclare pas tous les hommes justes. Et donc, quel est le raisonnement qui mène à une fausse persuasion? C'est ça que je veux considérer maintenant en deuxième lieu. Nous avons vu le danger, c'est réel, Jésus en parle, mais on veut aller un peu plus profond dans cette histoire et se demander, mais quel est le raisonnement derrière qui nous mène à une fausse persuasion? Et je veux qu'on remarque tous les traits admirables de ce premier homme. Parce que Jésus le dépeint vraiment très favorablement. Et on va le mettre dans la première personne, parce que ce sont des choses que les gens se disent. En premier lieu, je suis un adorateur du seul vrai Dieu. La personne se regarde et dit, écoute, j'adore le seul vrai Dieu. La Bible dit qu'ils vont tous les deux au temple. Il y a un seul temple dans le monde. Un seul endroit où Dieu est adoré à cette époque-là. On offre des sacrifices. Ils vont tous les deux au temple. On peut dire comme ça qu'ils vont, je vais à la bonne église. Le pharisien prie Dieu, il le trouve probablement facile à prier. Il adore Dieu, il aime chanter. Et ça lui fait quelque chose dans son cœur. Les paroles lui sortent facilement dans la prière. Deuxième raisonnement derrière, c'est, il se dit, je connais la Bible. Et plus que ça, je m'efforce de la respecter. Je connais la Bible et je m'efforce de la respecter. Et le fait que Jésus l'identifie comme un pharisien, ça c'est souvent un problème pour nous maintenant. Parce que dès qu'on entend pharisien, nous on se dit, ah, quelqu'un de méchant. Mais les gens à l'époque de Jésus n'avaient pas cette réaction. Et donc, il faut essayer de comprendre ce qui se passe ici dans cette histoire. Nous connaissons tous les conflits qui existaient entre Jésus et ce groupe d'hommes, mais Jésus l'utilise comme un exemple d'une réussite, une réussite religieuse. Et ce qu'il y a de bien chez les pharisiens, c'est qu'ils croyaient vraiment dans la loi de Dieu. Et ils essayaient de l'observer, de garder la loi de Dieu. Et vous savez, il y avait les pharisiens, il y avait aussi les sadducéens. Et les sadducéens étaient un peu les libéraux de l'époque. Les libéraux sur le plan théologique. C'est-à-dire, ils n'acceptaient que les 5 premiers livres de la loi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ils rejetaient, en fait, tous les autres prophètes. Ils niaient la possibilité d'une résurrection des morts. Ils ne croyaient pas au ciel. Ils ne croyaient pas à l'enfer. Jésus a des interactions avec eux concernant le ciel. Donc voilà, il y a les pharisiens les sadducéens qui ont vraiment des problèmes théologiques. Mais Jésus fait l'éloge de l'enseignement des pharisiens. Il dit à ses disciples de faire ce qu'ils disent. Carrément, il dit, faites ce qu'ils vous disent. Après, il dit, bon, pas ce qu'ils font, mais faites ce qu'ils vous disent. Jésus parle d'eux comme étant assis sur le siège de Moïse. Il y a une certaine autorité légitime qu'ils avaient à l'époque. Et Jésus affirme une grande partie de leurs applications, même de la loi. les applications méticuleuses de la loi, comme la dîme sur les herbes du jardin. Jésus dit, vous devriez faire cela, vous devez faire la dîme, même sur ce qui sort du jardin. Comme ils vous disent de le faire. Il y a même de très bons prédicateurs que je connais que pensent, et ça va peut-être vous surprendre, mais ils pensent que peut-être Jésus lui-même était pharisien. On sait que même à cette époque déjà, Paul était pharisien. Ils disent que Jésus est souvent appelé rabbi, comme il était, et surtout que les attaques de Jésus à leur encontre ressemblent aux accusations d'un dénonciateur qui les connaît de l'intérieur. En tout cas, Jésus dit de très belles choses concernant ce groupe d'hommes. Et Paul aussi, je vous cite Philippiens 3, où il dit « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. » Il dit « Ça, c'est un sujet de me glorifier devant la loi de Dieu. » Alors je vous dis ça tout simplement pour vous nous aider à mieux apprécier le fait que quand Jésus dit que cet homme était pharisien, c'est comme s'il parlait de nos jours d'un ancien, hein, d'un pasteur ou d'un diacre. C'est-à-dire que deux personnes qui vont à l'église, il y a un qui est pasteur. Et sur le point intellectuel, cet homme connaît toutes les bonnes réponses. Hein, donc c'est au milieu du culte, il se lève pour prendre la parole. On ne va pas avoir peur qu'il va dire une bêtise. Et c'est quelqu'un qui connaît bien sa Bible. Il connaît bien toutes les bonnes réponses. Et ses accomplissements sont soulignés par ce contraste qui existe entre lui et l'autre homme. Regardez tous ces contrastes. Hein. Et de même, nous avons du mal à apprécier cette lumière favorable qui est mise sur le pharisien. Je crois que nous avons du mal à comprendre cette connotation négative qui est placée sur le publicain. Parce que nous, on entend, oh, c'est le pauvre, il faut avoir de la pitié sur lui. Mais non, en fait, c'est une lumière très, très négative qu'on avait sur ces hommes. Le publicain n'était pas un simple fonctionnaire d'État pour les Romains. Il était quelqu'un qu'on appelle un fermier fiscal. Alors, c'est quoi un fermier, mais fiscal? C'est ce qu'il devait faire. Il pouvait utiliser ses propres méthodes et ses propres employés aussi pour collecter les impôts exigés par Rome. Et puis, Rome, en fait, ne se souciait pas de savoir s'il traitait ses compatriotes juifs avec justice ou équité. Tout ce qu'il devait faire, c'est de donner aux Romains ce qui était exigé d'eux. Et après, lui, il pouvait récolter même plus pour lui-même. Donc, il ne faut pas penser à ce publicain comme un SDF, peut-être, qui rentre. Un clochard, il rentre, il est pauvre, il est sale. Ce n'est pas de tout ça. Il faut considérer l'homme comme l'homme le plus riche de la ville. C'est l'homme qui portait toujours la dernière mode. La plus belle, il avait la plus belle des voitures et de montres. Et imaginez que vous êtes là à l'église et vous êtes un simple ouvrier. Vous avez le SMIC, c'est tout. Et lui, il travaille à peine, mais il possède un château. Il est toujours accompagné d'au moins une femme de mauvaise réputation. Et le pire, c'est qu'il a le pouvoir de taxer tous les profits que vous réalisez. Donc même vous êtes là, vous payez la dîme à l'église. Vous donnez à l'église, lui, il donne rien. Et bien qu'il doit reverser, comme j'ai dit aux Romains, la majorité de ce qu'il reçoit, on peut voir dans sa façon de s'habiller, la façon de se comporter, la maison qu'il a, qui profite bien lui-même. Et il se conduit, ce qui est difficile parce qu'il a toutes ses richesses grâce à votre dur labeur. C'est vous qui travaillez pour lui faire riche. Et si vous réussissez encore plus, ben lui devient encore plus riche. Alors, qui préfériez-vous avoir comme voisin? Le pharisien qui essaye de garder la parole de Dieu, de l'observer, de la lire, de l'étudier? Ou cet homme avec ses soirées bien arrosées qui durent toute la nuit, qui est connu pour ses mauvaises fréquentations, etc. Qui préférez-vous avoir comme voisin? Et notez ce que dit le pharisien. Regardez le verset 11 au milieu. Il dit, « Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme à tous mes revenus, de tous mes revenus. » Alors, quand il dit qu'il n'était pas comme les ravisseurs, c'est-à-dire les avares ou les voleurs, ça suggère que l'autre homme était, en fait, il y a un contraste que Jésus peint ici. L'autre homme était voleur, avare, ravisseur. Et il rend grâce à Dieu qu'il n'est pas injuste, comme le publicain. Il était connu pour être un homme injuste. Et puis, il dit qu'il n'est pas adultère. Vous voyez ça? Et le publicain, grâce à son argent, était probablement immoral. Ailleurs, dans les évangiles, on lit dans la même phrase « les publicains et les prostituées », comme s'ils allaient de pair. Et ce pharisien a donc une vie qui tranche avec le monde qui l'entoure. Il est différent, il est pieux. Il n'est pas avare, mais il donne la dîme sur tous ses revenus. Il n'est pas adultère, mais il discipline son corps jusqu'au point de jeûner deux fois par semaine. Ça, c'est un raisonnement. Si vous êtes comme ça, ça, c'est un raisonnement qui peut vous conduire à dire, ben, je suis juste devant Dieu. Et puis, ce qu'il fait troisièmement, il dit, je rends gloire à Dieu pour tous mes accomplissements. Je rends gloire à Dieu. Voyez ça, verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ce n'est pas ici une prière au coin des rues. Hein, pour être entendu des hommes. C'est dans le silence de son cœur qu'il dit ça. C'est dans la sincérité. Il est sincère en adorant Dieu et en disant, « Ô Dieu, je te rends grâce. » C'est le verbe, en grec, c'est le verbe « eucharisteo », d'où vient le mot « eucharistie ». Et la prochaine fois que Luc va employer ce verbe, c'est au chapitre 22, verset 17, où c'est la dernière scène, et Jésus, ayant pris une coupe, et rendu grâce, c'est ce même mot. Jésus rend grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Jésus rend grâce, cet homme rend grâce aussi à Dieu, pour tout ce qu'il fait. C'est ce que fait cet homme, il rend grâce à lui. Alors, vous allez imaginer un peu avec moi que cet homme veut devenir membre de l'église évangélique baptiste de Saint-Denis. Donc, on lui pose des questions, il parle de ses croyances, et il croit exactement comme nous. Il adore Dieu, il aime le prier, le louer, il a la bonne doctrine, il est d'accord avec notre confession de foi. Mais c'est pas que ça, il faut regarder sa vie, n'est-ce pas? Donc on regarde sa vie. Et elle est exemplaire. Il a une vie vraiment façonnée selon la Bible. Il ne vit pas comme le monde. Et puis on lui demande, mais pourquoi es-tu comme cela? Et il dira, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Je lui rends grâce à Dieu seul et je le remercie tous les jours pour sa grâce qui m'a épargné de tous les péchés qui existent dans ce monde. Est-ce qu'il peut devenir membre de Saint-Denis? Est-ce que ça, c'est votre raisonnement? Jacques nous dit que nous pouvons nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. C'est possible. Et on a mal compris l'histoire si on pense « Ah, il faut être comme le publicain plutôt que comme le pharisien. » On a vraiment mal compris l'histoire. Toute la force de cette histoire, en fait, réside dans le fait que le pharisien mène réellement une vie exemplaire. Et le publicain pratique vraiment des choses qui ne devraient même pas être mentionnées parmi les saints. Mais Jésus dit que c'est le type qui a fait fortune en travaillant au noir qui rentre du culte justifié. Et ce diacre qui rentre non justifié. Et en se disant, mais Comment ça c'est possible? Vous voyez la surprise que Jésus veut créer. Comment est-ce possible? Je crois que la réponse se trouve dans la prière que nous trouvons dans la bouche de ces hommes. Considérons donc ensemble la prière que Dieu exauce. Et notez que ces deux prières commencent de la même manière. Vous avez vu ça? Verset 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu !» Et verset 13, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu !» Ils commencent tous les deux leur prière de la même manière. Donc les deux hommes adorent le même Dieu dans le même temple. Ils commencent leur prière de la même manière. Verset 10, hein, deux hommes montèrent au temple pour prier. Deux hommes qui viennent au culte, viennent à bonne église, et les deux hommes prient. Et verset 11 dit que le pharisien priait. Vous voyez ce verbe prier, verset 11? Mais c'est frappant, je trouve frappant en tout cas, que Jésus n'emploie pas le même verbe quand il parle du publicain. Il dit, mais il se frappait la poitrine en disant. C'est comme si il savait même pas comment prier convenablement. Il va dire, moi je sais même pas prier. Et tout ce qu'il peut faire, c'est de dire. C'est un mot simplement pour dire. Il a des choses à dire, des choses qui sont dans son cœur, mais lui, il sait pas prier. L'autre, il sait prier. Mais lui, non. Alors, il faut jamais penser que il faut prier une certaine prière pour être sauvé. Il n'y a pas une prière de salut. On peut se leurrer avec une prière, mais pas Dieu. Si on cherche à trouver la prière que Dieu exauce, on ne va pas la trouver dans la forme de la prière. Est-ce que j'ai dit la bonne chose au bon moment et de la bonne manière? C'est les païens qui pensent comme ça, Jésus dit en Matthieu 6. C'est la forme de leur prière, c'est l'énergie derrière leur prière, c'est la durée de leur prière. Ça, c'est des pensées païennes, pas chrétiennes. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire, donc, de cette prière? Premièrement, Dieu répond à la prière de celui qui lui apporte tous ses péchés en s'humiliant. C'est pas compliqué, hein? Il y a un homme qui apporte à Jésus ses justices et un homme qui apporte à Jésus ses péchés. Et ça se fait toute la différence. Et bien que les prières commencent de la même manière, on voit qu'elles sont radicalement différentes, hein. Regardez le verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Et on peut inclure ici, parce que c'est l'idée, hein, « Je ne suis pas comme les ravisseurs. Je ne suis pas comme les injustes. » Je ne suis pas comme les adultères, ou même je ne suis pas comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Qu'est-ce qui revient et revient et revient? C'est le jeu. Le jeu. Et l'orgueil le plus terrible n'est pas l'orgueil qu'on démontre aux hommes. Hein. Parfois, on aime se présenter devant les hommes. Hein, je suis comme ça. L'orgueil encore plus terrible, c'est quand on se présente ainsi devant Dieu. Et comparer cela à la prière de l'homme qui travaille main à main avec la force d'occupation, hein, verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Ça, c'est ce qu'il apporte à Jésus. Et vous devez savoir qu'à cette époque, ce sont les femmes du Moyen-Orient qui se frappaient la poitrine. Pas les hommes. Sauf dans des conditions les plus extrêmes. Et Jésus, en le démontrant comme cela, il veut faire comprendre à ses auditeurs que cet homme a un sentiment très très profond au fond de lui-même. C'est-à-dire, ce n'est pas une prière qu'il récite, « Oh, sois apaisé ». Jésus le décrit ainsi, frapper la poitrine au temple, un homme, un publicain en plus, qui fait ça, c'est bizarre. C'est pour nous montrer qu'il a un sentiment très profond, très fort à propos de quelque chose. Personne écoutant Jésus n'aurait dit, ah oui, bon, c'est normal, hein, c'est ce que font les publicains tout le temps. Non, non, ça aurait été un peu choquant. Et en entendant le pharisien debout priant lui-même, là, ils ont pu se dire, bon, ça c'est approprié, c'est normal, ça on le voit tous les jours. Mais voici quelque chose de vraiment inhabituel. Et si vous vous demandez, mais pourquoi toute cette agitation? Pourquoi est-ce qu'il est tellement troublé? On lui a volé quelque chose? Pourquoi est-ce qu'il est tellement troublé? Jésus ne vous laisse pas dans le doute, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il se frappait la poitrine? Il dit, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et remarquez que le pharisien a utilisé sa prière pour dire à Dieu quel genre de pécheur il n'était pas. Hein? Il n'est pas, il dit, hein, je n'ai pas commis d'injustice. Il dit, donc, je ne suis pas comme les injustes. Il ne dit pas, je ne commets pas d'adultère, mais il dit, je ne suis pas comme les adultères. Hein? C'est-à-dire, il ne peut pas s'identifier avec eux. Et même s'il commet parfois une injustice, ou même s'il a une pensée impure, il ne peut pas s'identifier comme étant injuste et adultère. Vous voyez, souvent, demandez aux gens, est-ce que vous êtes voleur? Non. Oui, j'ai volé. Est-ce que vous avez menti? Oui, j'ai... Est-ce que vous êtes menteur? Non. Est-ce que vous avez eu des pensées impures? Oui. Est-ce que vous êtes adultère? Non. Vous voyez, c'est comme si c'est quelque chose d'extra, c'est en dehors de nous ce péché, c'est pas le vrai nous. Est-ce que vous avez triché à l'école, les enfants? Oui. Est-ce que vous êtes tricheur, menteur, voleur de bonnes notes? Ah non. On ne peut pas s'identifier avec ces pécheurs. Et le pharisien, il ne peut pas faire ça. Il ne dit pas, j'ai jamais commis d'injustice, mais il dit, je ne suis pas comme les injustes. Est-ce que vous, devant Dieu, vous pouvez admettre, Seigneur, je suis injuste. Je suis voleur. C'est-à-dire, tu as le droit de m'envoyer en enfer parce que je suis voleur. Je suis menteur. Je suis adultère. Je suis orgueilleux. Mais le publicain, il est accablé non seulement par son péché, mais par le fait qu'il est pécheur. Et rien que pécheur devant Dieu. Verset 13 encore, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Littéralement, c'est l'article défini. Je suis le pécheur, il dit. Il dit pas, oh, je suis mieux que les autres. Non, non, je suis le pécheur. Et ça, c'est la seule qualification qu'il apporte à Dieu. Il ne se présente pas à Dieu autrement que comme le pécheur. Et c'est ça qui est si dur à capter pour le monde. Quand on vient à Dieu, on veut toujours mettre nos meilleurs habits, soi-disant, et présenter à Dieu nos meilleures offrandes. Et dans un sens, c'est bon, on veut toujours donner le mieux à Dieu. Mais quand on vient demander le salut et le pardon, il ne faut pas tenter de persuader à Dieu que vous n'êtes pas si mal que ça. Il vaut mieux tout dire, tout confesser. Parce que Jésus est venu sauver les pécheurs. C'est ce point que Jésus souligne dans la dernière phrase de cette histoire, verset 14, la fin de verset 14. C'est avec ça qui termine, hein. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Alors, nous sommes dans le contexte de la prière, n'est-ce pas? Donc, quiconque s'élève devant qui, ici, dans le contexte? Devant Dieu. Sera abaissé par qui? Par Dieu. Mais quiconque dans sa prière devant Dieu s'abaisse, c'est lui qui sera élevé. Jacques 4, versets 9 et 10 disent ceci, « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Humiliez-vous devant le Seigneur. Et ça, c'est la différence. Il y a un dans sa sincérité, hein, dans sa reconnaissance, il s'élève devant Dieu. Et l'autre s'abaisse devant Dieu. Avez-vous ressenti cette pauvreté intérieure? Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit », c'est-à-dire ils n'ont rien à offrir à Dieu. Avez-vous ressenti votre indignité totale, votre péché répugnant? Thomas Wilcox, dans un livre traduit en français, on peut le trouver sur Internet, il dit « Quand un homme a la foi, il est vivement pénétré du sentiment de ses péchés. » Et puis il dit ceci, j'ai cette citation pour vous, il dit « Désirez-vous aller par la foi à Jésus-Christ ?» Voici du conseil. « Laissez toute votre propre justice bien loin en arrière. » Et ne lui portez rien que vos péchés et votre misère. Cette parole est dure, répliquez-vous. Oui, dis-je, encore une fois, il faut que vous abandonniez toute votre sainteté, vos vertus, vos bonnes œuvres, vos actes d'humiliation, et que vous n'ayez à présenter au Seigneur Jésus que vos défauts et votre misère. Que ça. Ça va à contraire de notre pensée, n'est-ce pas? Mais il dit, sans cela, il n'est pas le Jésus qu'il vous faut. Et vous ne lui convenez pas non plus. Il est un médiateur et un sauveur qui ne souffre point qu'on mette rien à côté de lui. Il ne prétend pas que vous soyez autre chose qu'un pauvre pécheur qui se donne pour perdu. Et si cela ne vous accommode pas, jamais vous ne conviendrez ensemble. Parce que Jésus vient pour sauver, pas pour féliciter. Et on veut tous une félicitation divine. Mais pas tout le monde veut un sauveur. Et n'est-ce pas signifiant que celui qui apporte ses bonnes œuvres à Dieu rentre condamné, mais celui qui apporte uniquement ses péchés à Dieu rentre justifié? Ça, c'est la surprise. Et Marc 2, verset 17, Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Alors, qu'est-ce que vous apportez à Jésus? Mon cantique, je crois, préféré dit, « Seigneur, je n'apporte rien. Ta croix seule est mon soutien. Je viens à toi comment? Sans ressources. Souillé. Je viens à la source, ouverte. » Pour les pécheurs. Et je n'ai qu'un cri. Ah, rends-moi pur ou je meurs. Je n'ai pas de plan B. Je ne peux pas me débrouiller tout seul. Jésus, si tu ne me sauves pas, je suis mort. Dieu répond donc à la prière de celui qui lui apporte tous ses péchés en s'humiliant. Mais l'autre aspect de cette prière, c'est que Dieu répond à la prière qui fait appel à l'apaisement de Dieu grâce au sacrifice du Sauveur. C'est vraiment, il faut le noter, hein, parce qu'il fait plus que dire, voilà, j'ai mes péchés. Parce qu'on peut se vanter parfois de nos péchés. Mais sa prière fait appel à l'apaisement de Dieu, hein, et grâce au sacrifice du Sauveur. Tout est là-dedans. Regardez le verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis le pécheur. Donc il dit, je suis le pécheur, mais qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Sois apaisé envers moi. Sois apaisé envers moi. Dieu lui parle d'un... Enfin, Dieu dans l'Ancien Testament nous parle d'un meuble qui était logé dans le tabernacle. C'était une arche en bois. On appelait ça l'arche de l'Alliance, vous vous rappelez? Et dans cette arche de l'Alliance, il y avait plusieurs choses. Mais entre autres, il y avait la loi de Dieu. Il y avait les 10 commandements. Et tous qui ne gardaient pas cette loi étaient condamnés. Exode 25, 16 dit, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Le témoignage, c'est les 10 commandements. Mais après, dans le même chapitre, Exode 25, Dieu leur dit de mettre quelque chose sur l'arche. Et imaginez l'arche, donc il y a cette boîte-là, et au-dessus de l'arche, il y a une couvercle. Exode 25, 17 dit, tu feras un propitiatoire d'or pur. Ce propitiatoire était le couvercle de l'arche, avec les mêmes dimensions, donc elle mettait, et après sur ça, il y avait les anges, les chérubins. Mais pensez au nom donné à ce couvercle. C'était appelé un propitiatoire. Quel est le mot qu'on entend là-dedans? Le mot propice. Quelqu'un qui est propice, hein, c'est quelqu'un qui montre un certain amour, un regard favorable envers les gens. Et la forme verbale de ce mot propice se trouve ici dans notre verset. Quand il dit, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Il dit, sois propitié envers moi. Donc, le propitiatoire, ce couvercle, était le lieu d'apaisement. Il y avait la loi, c'est une belle image, hein, il y avait la loi qui condamnait l'homme, mais on couvrait cette loi avec le couvercle de la propitiation qui rendait Dieu propice. Et une fois par an, le souverain sacrificateur, il entrait, il n'ouvrait jamais le couvercle, mais sur le couvercle, il va mettre quoi? Il va mettre du sang pour que Dieu soit apaisé. Il dit, c'est là, sur le propitiatoire, que Dieu sera apaisé. Exode 25, 21, tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Ça, c'est l'image. Hein. Là, dans la boîte, ce qui nous condamne, mais ce qui est au-dessus, ce lieu d'apaisement. Et Romains 3, 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime, vous savez ce qui suit? Victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Jésus est la victime propitiatoire. Et là, Jésus fait allusion à cela. Parce que quelques jours plus tard, Jésus va lui-même aller au calvaire. Il va lui-même donner sa vie, répandre son sang. Il va lui-même être la propitiation, le sacrifice propitiatoire pour nos péchés. Et Jésus fait allusion en avance de ce qu'il allait lui-même faire. Et cet homme pervers, cet homme immoral, ce tricheur, ce voleur, ce publicain, confesse qu'il est pécheur, mais il dit, ô Dieu, sois apaisé, sois propitié envers moi. Sois propice grâce au sacrifice. Il est dans le temple. Il pense à ce qui est derrière le rideau, dans le lieu très saint. Il dit, comme ce qui se passe là-dedans, faites envers moi, soit apaisé, ô Dieu, envers moi, un pécheur. Jésus est ce sacrifice. Et donc, quelle est la prière à laquelle Dieu répond? C'est la prière du publicain, pas parce qu'il était publicain. Là encore, on a mal compris si on pense que Dieu répond à certaines personnes parce qu'ils sont quelque chose. Non. C'est parce qu'il confesse à Dieu tous ses péchés. Il admet qu'il est rebelle. Les jeunes, est-ce que vous avez vraiment admis à Dieu que vous êtes un rebelle? Mais vraiment. Pas que vous avez des différences d'opinion avec vos parents. C'est pas ça. Vous êtes rebelle. Et vous êtes né comme cela. Que vous êtes voleur, que vous êtes adultère. Vous connaissez qui vous êtes, j'espère. Et puis vous dites à Dieu, sur la base de la propitiation, de le sacrifice de Jésus-Christ, ô Dieu, sois apaisé envers moi. Celui-là, rendre justifié. Et l'autre continue à se persuader que tout est bon. Ô Dieu, travaille dans nos cœurs, ouvre nos pensées. Ta parole est comme, entre autres, un miroir pour nous révéler à nous-mêmes. Et je prie que tu nous donnes des yeux à chacun, à chacune ici, pour vraiment nous comprendre nous-mêmes, d'accepter la laideur et la gravité, la souillure, la méchanceté de ce que nous sommes, et qu'on puisse venir à Jésus-Christ pour trouver un sauveur qui sait sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu par lui. Que ce soit à ta gloire et à notre joie. Amen.